Sylvain Garbar, garde animateur, notre super-héros préféré, a réuni plusieurs de ses semblables. Des hommes, car oui, le plateau est exclusivement masculin aujourd'hui. Des hommes, donc, qui s'engagent aux côtés du conservatoire pour l'épauler dans la gestion des sites dont il a la charge. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est devenu une habitude, vous venez bien accompagné dans ce studio. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'y accueillir avec vous pas moins de 4 intervenants et un autre intervenant par téléphone. Alors, tout d'abord, monsieur Jean-Jacques Fontmarty.
Oui, bonjour.
Vous êtes pisciculteur.
C'est ça.
Monsieur Nicolas Maucourt, vous êtes éleveur de moutons et de chèvres.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour. Monsieur Frédéric Néry, vous êtes avec nous par téléphone.
Oui, bonjour.
Alors, nous verrons tout à l'heure ce qui vous amène à participer à cette émission. Également en studio, monsieur Ambroise Souchet, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Jesse Vounet, bonjour. Et vous, vous représentez ici le FAC, le foyer d'accueil Chartrain, et on verra également tout à l'heure ce qui vous amène. Alors, Sylvain, nous avons vu avec vous que la gestion d'un site est déterminée de façon très précise par un plan de gestion, un document essentiel qui est élaboré avec beaucoup de soin, en fonction de la nature des sites dont le Conservatoire d'espaces naturels est gestionnaire. Et le mois dernier, nous avons abordé une opération ponctuelle d'entretien de ces sites, les chantiers d'automne. Aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin sur ce thème de la gestion. Mais la gestion sur le long terme, une gestion, j'allais dire, durable et en tout cas suivie, au jour le jour presque, cette gestion, elle n'est pas assurée par les bénévoles, ou du moins pas en premier lieu. Alors, qui est directement concerné par cette gestion?
Alors, cette gestion, elle est avant tout suivie par les chargés de gestion écologique au Conservatoire d'espaces naturels. Mmh. Ils ont en charge la surveillance des sites et la mise en œuvre des actions de gestion conformes aux prescriptions du plan de gestion. Et par les gardes animateurs, c'est un peu un poste moitié chargé de gestion écologique et moitié animateur nature. Donc pour ce qui est le cas en Eure-et-Loire, au final, c'est moi, garde animateur, qui suis la gestion de l'intégralité des sites euréliens.
On avait vu quelques exemples de gestion de sites. Là, contrairement au chantier d'automne, on va être, j'allais dire, dans des gros travaux.
Effectivement. Au niveau de la nature des travaux, on va en distinguer deux types. Il y a les travaux lourds de restauration, où là, par exemple, on souhaite restaurer un milieu ou recréer un espace qui va être favorable pour une espèce qui sera un enjeu identifié dans le plan de gestion. Et après, ça va être des travaux d'entretien. Les partenariats, ils sont vraiment très, très diversifiés. On le verra au niveau des interventions. Mmh. Ça peut être de la sous-traitance pour les travaux, on va dire, mécaniques. Il y a également des partenariats avec des agriculteurs locaux, des éleveurs, on va le voir, des pisciculteurs également. Le conservatoire souhaite vraiment travailler avec les partenaires locaux et développer finalement toute l'économie des territoires.
Alors, ce qui est formidable, vous le disiez, c'est que nous allons pouvoir aujourd'hui avoir des exemples très concrets et qui concernent en plus les sites euréliens. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Jacques Fontmarty. Donc, vous êtes pisciculteur sur l'étang de la Bénette à Senonche. Alors, avant toute chose, j'ai envie de vous poser une question qui paraîtra peut-être un peu bête à certains auditeurs, mais assez fondamentale à d'autres. Qu'est-ce que c'est que la pisciculture? En quoi consiste votre travail?
Alors, la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Alors, il existe bien sûr beaucoup de types de pisciculture. Hein. Vous avez la pisciculture en eau de mer, qu'on qualifie plutôt d'aquaculture, hein, sur l'élevage du bar, de la dorade, crevettes, etc. Vous avez la conchyliculture, avec les huîtres, les moules, etc. Et puis la pisciculture continentale, qui se matérialise en plusieurs branches. La salmoniculture, qui est quand même une très très grosse branche de la pisciculture, donc élevage de truites, saumon, et puis la pisciculture d'étang. Voilà. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pisciculture d'étang. Alors, elle consiste tout simplement à récupérer des poissons. Donc, si vous voulez, il faut essayer de relativiser les choses. C'est-à-dire qu'un étang, il faut la comparer à une pièce agricole. À une prairie, par exemple, vous voyez, où je vais pas lâcher, moi, des chèvres ou des brebis, mais je vais lâcher des poissons. Ces poissons-là vont, bien sûr, se nourrir, etc., se reproduire. Et ils vont participer justement à ce que le milieu puisse continuer à se transformer.
C'est la question que j'allais vous demander, peut-être pour entrer vraiment dans les détails. Qu'est-ce que votre activité professionnelle apporte en termes de gestion?
Les poissons vont se nourrir, donc effectivement, les herbiers, des choses comme ça, vous voyez, les poissons vont trouver à manger là-dedans. Vous avez ensuite, donc ça c'est pour tout ce qui est carpe, gardon, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez les prédateurs, brochets, cendres, perches, etc. qui vont réguler justement la population de petits poissons, de gardons, tanches, carpes. Le fait d'élever, entre guillemets, ces poissons-là va nous permettre quand même pas mal de choses, et notamment le respect du site, c'est-à-dire qu'il va falloir, au bout d'un moment, qu'on vidange. Et le fait de vidanger va donc mettre à nu une grosse partie de vase, de boue, de ce que vous voulez, si vous voulez, le substrat qui est au fond de l'étang. Et en amenant ces substrats à l'air, il va y avoir une oxydation des vases, et qui va permettre justement de pouvoir enrichir tout ce patrimoine, qui va permettre de faire des apports différents pour différentes facettes au niveau du poisson et puis au niveau du biotope en général, hein, puisque il n'y a pas que le poisson dans les étangs, il y a les micro-organismes qui vivent, qui dégradent la matière organique, etc.
Alors on est loin de l'image que certains peuvent se faire de la pisciculture, on a plutôt l'impression d'une pratique, d'une activité professionnelle qui est plutôt dommageable pour l'environnement.
Alors pas du tout, c'est une activité qui remonte au Moyen-Âge. Beaucoup de moines ont contribué à la fabrication de tous ces étangs, d'ailleurs de beaucoup, beaucoup d'étangs, et quelle que soit la région en France, voire dans le monde. Hein. À la base, c'était une source de revenus et puis surtout une façon de pouvoir se nourrir. Le poisson, la totalité des poissons, était consommée. Il n'y a pas tellement eu de mécanisation dans la méthode de travail, dans les pêches, etc. Et puis, il n'y a pas d'intervention, par exemple, sur des antibiotiques ou des choses comme ça. On n'a pas. C'est un petit peu de l'élevage encore extensif. Je dirais semi-extensif aujourd'hui, mais on n'entasse pas les poissons. Et puis, au niveau des pathologies, c'est vrai que c'est un poisson assez sain.
Pour compléter les propos de Jean-Jacques par rapport à la pisciculture et le fait que ça contribue quand même au maintien de tout un écosystème. Donc l'étang de la Benette, il a été acheté en 97 par le conservatoire. Donc entre autres, en termes d'enjeux, on peut y retrouver des poules d'eau, des hérons, enfin des oiseaux de passage, des limicoles. Et les enjeux principaux sont au niveau de la flore, puisqu'on a des plantes protégées au niveau national qui s'y développent, mais également des populations d'amphibiens, donc des crapauds, tritons, grenouilles, salamandres, et énormément de libellules. Et en fait, le fait de maintenir une activité piscicole, comme le disait Jean-Jacques, on vidange assez régulièrement l'étang, qui doit avoir des eaux très très pures, puisqu'il est situé en tête de chaîne d'étang. Ça permet entre autres la minéralisation des vases, mais aussi d'avoir un petit rôle de sentinelle vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes, notamment l'écrevisse américaine, qui cause de gros dommages au niveau des écosystèmes. Donc maintenir cette activité qui en plus est extensive à l'étang de la Benette, puisqu'on ne charge pas l'étang à tort de bras, l'activité est extensive sur le site. On est à un point d'équilibre où, que ce soit l'activité piscicole et toute la biodiversité qui est sur l'étang de la Benette est maintenue.
Nicolas Maucourt, vous aussi, vous êtes dans l'élevage, mais cette fois, donc, ce sont des moutons et des chèvres. Vous exercez votre activité sur un site qui est situé à Praville. Donc là, on est plus dans le quart sud-est de notre département. Donc c'est la Michellerie. On y trouve plusieurs types d'environnement, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc sur ce site-là, on a des endroits qui vont être très herbés et des endroits qui vont être très broussailleux. Donc on a mis des moutons, ça va faire 4 ans sur ce site-là, qui ont permis de pouvoir nettoyer toutes ces zones herbées. Actuellement, depuis un an, on a mis en place des chèvres de Lorraine, qui permettent de pouvoir nettoyer ces sites et de pouvoir enlever tous les ronciers, toutes ces zones où étaient entretenues mécaniquement autrefois, et que maintenant, c'est les animaux qui le font, et qui arrivent vraiment à faire des travaux qui sont énormes. Je vois, ça fait un an qu'on a mis des chèvres, et là, sur des broussailles qui faisaient 2 mètres de haut, et elles ont tout nettoyé, quoi.
Alors justement, le lien entre élevage ovin et caprin et la gestion du paysage, c'est pas un lien qui est nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il avait été progressivement remplacé par des techniques, on va dire, plus radicales, mécaniques en tout cas. Pourtant, on constate depuis plusieurs années maintenant un retour à du pâturage comme moyen de gestion. Quel intérêt ça présente ?
C'est déjà un intérêt au niveau de toute l'écologie, au niveau des plantes, au niveau des animaux. On peut avoir en accord avec les moutons, on a le Dicknem criard qui reste en place. C'est un animal qui permet de pouvoir nicher, qui autrefois, lorsque les engins passaient, ça nettoyait tout. On n'avait aucune sélection au niveau des plantes. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un accord total. Et c'est vrai que là, on a des plantes qui se mettent en place, les animaux les respectent. Et ça permet de pouvoir proliférer, de pouvoir garder tout ce qui est bon pour l'écosystème, quoi.
Sylvain, le site de Praville fait partie des sites gérés par le conservatoire, mais dont il n'est pas propriétaire. Et il y a les deux cas de figure, c'est ça?
Effectivement, comme on l'avait pu le voir en introduction de la première émission, le conservatoire est soit propriétaire de sites, donc c'est le cas notamment de l'étang de la Benette, mais il peut également passer des conventions de gestion ou des baux auprès de propriétaires privés, de collectivités ou même de sociétés, puisque c'est le cas au niveau de la Michellerie, puisqu'il y a un bail emphytéotique d'une durée de 25 ans qui a été signé avec la Société des matériaux de Beauce.
Alors un propriétaire privé, c'est aussi le cas pour le site, je crois que c'est celui du Moulin à Thon. Alors nous sommes cette fois tout au sud du département, en vallée de l'Aigre, et donc dans un milieu humide, hein, je ne me trompe c'est pas. Bien. Alors Frédéric Néry, vous êtes avec nous par téléphone, donc c'est votre père qui est propriétaire de ce site. Comment est-ce que vous êtes entré en relation avec le Conservatoire d'espaces naturels et pourquoi avez-vous décidé de lui confier la gestion de ces terres?
Je suis entré en lien avec le conservatoire déjà parce que je travaille dans un conservatoire dans le sud de la France, donc je connais bien le système et l'organisme. C'est effectivement une propriété de famille qui était anciennement une roselière et qui avait été plantée en peuplier, avec ce qui m'allait pas trop, comme je suis un petit peu naturaliste, parce que bon, les peupliers, ça modifie complètement le milieu, ça amène de l'ombre, ça pompe l'eau. Il y a une vingtaine d'années, un peu à peine, peut-être, on avait décidé de couper les peupliers pour retrouver de la roselière, qui est plus proche du milieu naturel, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir, des busards, les fauvettes aquatiques, possibilités de plantes intéressantes comme le marisque. Bon, n'étant pas sur place, pendant des années, on a fait nous-mêmes l'entretien de cette roselière en essayant d'éliminer tous les saules et qui avaient tendance à coloniser la roselière. Et là, bon, mon père étant âgé, sur place, il pouvait plus le faire. Moi, venant que de temps en temps sur place, je me suis rapproché du conservatoire pour voir si ça les intéressait. Vu que les roselières, sont des milieux qui deviennent assez rares dans le secteur. Et le conservatoire est intéressé. Du coup, on a passé une convention avec le conservatoire qui a entamé une phase de restauration assez lourde cette année, où ils ont enlevé tous les saules, tous les ligneux qui colonisaient la roselière.
Comment est-ce que le propriétaire s'y retrouve? J'allais dire qu'en fait, c'est une convention gagnant-gagnant.
Oui, par l'intérêt qu'on peut avoir sur les milieux naturels et les espèces, oui, tout à fait, c'est gagnant-gagnant, oui.
Vous confirmez, Sylvain?
Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'un propriétaire privé signe une convention avec le conservatoire, en fait, le conservatoire se charge de faire l'étude, de rédiger le plan de gestion, donc ça, c'est frais, et met en œuvre la gestion, et là encore, assez frais. Donc, lorsque c'est possible, là, on vient de le voir, c'est soit avec des agriculteurs ou des éleveurs locaux. Et malheureusement, parfois, on n'en trouve pas. Et là, il faut passer par des moyens mécaniques. Là, ça passe par justement des prestations donc, qui sont financées par divers organismes publics, les agences de l'eau, l'Europe, l'État, les conseils départementaux, la région. Donc là, comme par exemple la restauration de la roselière au Moulin à Thon.
Sur ces gros travaux, parmi les prestataires, on trouve donc le foyer d'accueil Chartrain. C'est là que vous intervenez, donc Ambroise Souchet et Jessie Vounet. Alors peut-être que vous pourriez présenter déjà vos travaux respectifs. Quelles sont vos fonctions au FAC?
Alors moi, je suis chargé de l'entretien des roselières, des prairies avec des gens en insertion. Nous entretenons des pelouses sèches, des prairies, de façon à laisser développer en dessous le substrat, les orchidées sauvages. Nous intervenons en milieu boisé, de façon à aérer aussi les terrains. Sur les zones marécageuses comme dans les roselières, nous coupons les roseaux, nous les évacuons. Et nous faisons aussi de la gestion au niveau des plantes invasives, voilà, pour les pois de senteur notamment, et la renouée du Japon, où c'est de l'arrachage manuel, de façon à en laisser le moins possible et à arracher au mieux.
Du coup, en parallèle, l'ensemble des personnes qui travaillent pour le foyer d'accueil Chartrain en parcours d'insertion professionnelle bénéficient d'un accompagnement qui leur permet à court terme de retourner ou à moyen terme vers l'emploi classique et la qualification. Donc pour ma part, je suis en charge du suivi, de la levée de ces freins pour des personnes qui ont choisi de passer par nos ateliers qui sont un tremplin vers un mieux, en tout cas en termes professionnels.
Voilà, ça c'est une des missions du FAC, parce qu'il y en a plusieurs. Intérêt vous avez à proposer ce type de mission aux personnes en insertion professionnelle?
En fait, on a rapidement entendu un certain nombre d'activités qui sont toutes liées à un bleu top. En fait, on voit qu'il y a bien un système où les choses sont interdépendantes. Et pour nous, c'est intéressant aussi d'intervenir à cet endroit-là, puisqu'on a des personnes, du coup, qui vont participer à la remise en place, au développement de plantes, enfin de sites naturels. Donc c'est quelque chose de très valorisant. Ça permet aux personnes de redécouvrir aussi le territoire, à nos salariés, d'être acteurs d'un vrai renouveau, enfin vraiment d'une mise en place avec une volonté qu'on sent bien là importante. On le voit, hein, c'est des personnes qui, quand elles interviennent sur ces terrains-là, reviennent avec vraiment un sentiment de fierté. Ça concourt à la reprise de confiance en soi, enfin vraiment à tout ce qui est important pour pouvoir retourner vers l'emploi. Parce que ce qu'on disait, hein, on a même des personnes qui, du coup, après, emmènent leur famille voir l'endroit où ils ont travaillé, peut-être quand c'est autorisé, bien sûr, prendre un pique-nique, enfin ce genre de choses. Donc c'est aussi des ambassadeurs de tous ces endroits-là et de ce qui est mis en place par le conservatoire.
Le temps passe, va falloir conclure cet entretien et je voudrais le faire en vous posant la même question à tous. Dans la première émission de Touche Terre en septembre, j'ai présenté les équipes des conservatoires d'espaces naturels comme des gardiens de la Terre, avec un petit T, j'avais précisé. Alors vos actions aux uns et aux autres, en collaboration avec le conservatoire, vous font participer à cette mission, qui est une bien belle mission d'ailleurs. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité particulière par rapport à la nature et à la biodiversité? Et est-ce que vous les voyez différemment depuis vos projets en lien avec le conservatoire?
Ben, en ce qui concerne l'activité piscicole, bien sûr qu'on participe à tout ce qui est environnement. Il faut que l'on soit, nous autres, dans le durable. Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe actuellement au niveau de la météo, avec des sécheresses pas possibles, on est obligé de gérer tout le réseau hydrique. Ça, c'est une chose. Les différents ouvrages, il faut bien arriver à les maintenir en état. Il faut bien regarder si tout fonctionne, etc. Donc le fait de travailler là-dessus, effectivement, nous faisons partie de tous ces gens qui travaillent pour que tout se passe bien au niveau de la nature. Nous sommes les premiers défenseurs, effectivement. Hein. Si quelque chose ne va pas sur un plan d'eau, on va être les premiers à tirer la sirène d'alarme. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Monsieur Beaucourt.
Oui, on a perdu un petit peu ces valeurs. On a voulu tout mécaniser et on retrouve un petit peu ce que faisaient nos grands-parents. Hein. Je veux dire qu'on n'a rien inventé jusque-là. Remettre des animaux dans des endroits qui permettaient d'entretenir des sites et puis faire vivre des familles aussi. Hein. Que bah, tout ça, c'est un petit peu perdu. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui sont, ouais, que je tiens à cœur et je pense qu'il faut promouvoir.
Monsieur Souchet, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une particularité du travail dans la nature. On se retrouve, c'est un temps aussi pour soi, avec soi.
C'est un temps pour eux, oui, tout à fait. C'est une remise en condition, aussi bien physique que psychologique pour eux, le fait de renouer avec le travail. Un respect pour eux-mêmes, voilà, et un respect aussi des autres avec qui ils travaillent. Et puis, le respect de la nature, voilà, qu'ils regardaient autrement avant.
Vous confirmez, Monsieur Vounet ?
Oui, je confirme. Et puis, je rajouterais simplement, en fait, on voit bien qu'il ne faut pas regarder ce qui est l'environnement comme une charge, mais bien comme une chance, en fait. Une chance de travail, une chance de que ça apporte des choses. Et que c'est pas, ça ne bloque pas, ça se met pas en travers des vérités économiques ou d'insertion ou quoi que ce soit, c'est bien un support, enfin un support qui est là sous nos yeux depuis la nuit des temps. En
fait. Monsieur Néry, peut-être vous du côté des propriétaires, donc vous nous l'avez expliqué, une conscience particulière par rapport à la nature. Vous inciteriez les propriétaires comme vous à solliciter les conservatoires?
Oui, bien sûr. Hein. C'est d'ailleurs aussi un petit peu en filigrane un des objectifs de la convention qu'on a passée avec le conservatoire. C'était d'inciter un peu les autres propriétaires de la vallée de l'Aigre à faire de même pour pouvoir passer des conventions. Il y a certains sites qui mériteraient une gestion, quoi. Même si moi, bon, c'est vrai que j'ai toujours été sensibilisé et intéressé par la protection de la nature et j'ai la chance d'en faire mon métier, mais si d'autres propriétaires pouvaient en faire de même, ça serait intéressant. Surtout, ils sont toujours un petit peu réticents, un petit peu méfiants au départ, et si on peut montrer l'exemple, eh bien, pourquoi pas, hein. Et quand on dit que tout le monde y retrouve son compte, et c'est essentiellement la biodiversité qui y trouve son compte, quoi.
Sylvain, peut-être un petit mot de conclusion, oui. Si encore une fois, l'union fait la force.
Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, là, on peut voir par tous ces témoignages qu'au final, avoir une richesse écologique, ça passe aussi par une richesse de partenariat et de méthodes de gestion. Alors, on a parlé gestion. Il faut savoir aussi que dans un document de gestion, la gestion, ça passe aussi par de la non-intervention. Donc, parfois, et même souvent sur les boisements, on n'intervient pas et on fait de la libre évolution. Ça aussi, ça reste quand même de la gestion, même si on laisse faire la nature. Et on peut voir également qu'au final, les missions du conservatoire et notamment la gestion s'inscrivent parfaitement dans la logique de développement durable, puisqu'on retrouve les trois volets principaux du développement durable, à savoir l'écologie, l'économie et aussi le volet social, puisque le foyer d'accueil du Chartrain en est l'exemple.
Messieurs, un grand merci à tous pour vos témoignages. Sylvain, nous retrouverons bien sûr le conservatoire dans un mois. Merci à tous.